radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi avec Jody Daniel Kacham. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Pollution des rivières en République démocratique du Congo, comment mettre fin à l'impunité? On en parle avec Madame Céline Sikouli-Simoua, qui est professeure à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Professeure Céline, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
Et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants pour échanger sur la pollution des cours d'eau en République démocratique du Congo. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la mesure de l'interdiction de morcellement des parcelles en République démocratique du Congo. Voilà, depuis le mois de février dernier, il est interdit de morceller les parcelles, sauf sur autorisation préalable de l'autorité compétente. On en parle aujourd'hui à partir des 11h05, heure de Kinshasa, dans cette émission de la vie au quotidien. Pour participer à ce programme, composez le 099-706-9941. 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission ensemble avec Élise Kavira. André Mongou, à la mise en onde au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Bien, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de la pollution des eaux. Vous savez, la pollution des eaux, des rivières, est une triste réalité en République démocratique du Congo. Dans le Haut-Katanga et le Lualaba, par exemple, certaines entreprises minières profitent de l'impunité pour déverser régulièrement des produits toxiques dans les rivières en violation des normes de l'environnement. Les conséquences sur les populations locales sont évidentes. Des problèmes de santé, particulièrement des cas de diarrhée, la destruction des cultures, la mort des poissons, des hippopotames, et voire même des êtres humains. Les chercheurs craignent à la longue une contamination des eaux souterraines. Rappelons aussi la pollution de la rivière Kasaï en 2021 par une entreprise angolaise avait exposé plus d'un million de personnes à des problèmes divers, sans et jusque-là, il n'y a pas eu réparation. Bien, on en parle dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'impunité dans ces secteurs? Nous, on en parle avec Madame Céline Sikouli-Simoua, professeure à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Professeure Céline Sikouli-Simoua, ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons de la pollution des rivières, des cours d'eau en RDC. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pollution des rivières?
Merci beaucoup, la pollution. Merci d'abord pour cette invitation. C'est un honneur et puis c'est toujours un plaisir, hein, de revenir sur Radio Capi et d'échanger avec vous et tous les auditeurs. La pollution des rivières, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est tout simplement le fait d'amener, par exemple, des composés ou d'objets ou des choses qui ne se retrouvent pas dans une rivière de manière naturelle. Je prends le cas lorsque on prend, par exemple, le pétrole normal, ce que nous utilisons dans les lampes, et on le déverse dans la rivière, ça vient déséquilibrer cette rivière-là, déséquilibrer le système normal. On va considérer le fait d'avoir amené ou introduit cet élément étranger qui vient déséquilibrer le système naturel normal. On parle de pollution. Et cette pollution peut être sous plusieurs formes. Là, je vais donner juste un exemple. Dans les rivières, on trouve des composés naturels, on trouve des éléments chimiques naturels, on trouve des animaux, on trouve des petites espèces. Mais dès lors qu'il y a dysfonctionnement ou intrusion d'éléments extérieurs, eh bien, il y a un problème. Ceux-là ne savent plus se développer, ne savent plus vivre ou se trouvent dans des situations difficiles, asphyxiés, par exemple, ou manque d'oxygène. Eh bien, on dit que la pollution, il y a une pollution au niveau des rivières. C'est en fait toute situation étrangère à l'équilibre naturel qui peut être apporté par des éléments extérieurs ou alors par un dysfonctionnement quelconque. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps avant qu'on puisse évoluer.
D'accord. Alors la pollution est, comme je l'ai dit, c'est fréquent dans notre pays, surtout dans les provinces où on exploite les mines, par exemple dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba. Il y a certaines entreprises minières qui polluent les eaux des rivières avec les rejets toxiques, les substances, les déchets miniers, etc., les acides, les produits chimiques, et cela cause pas mal de problèmes aux populations, des cas de maladies, des cas de décès, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, pour mettre fin à l'impunité, parce que cela a trop duré?
Merci beaucoup. Déjà, face à cette situation, ben, on ne voit que les zones minières, parce que c'est criant, ça semble avoir des effets immédiats au niveau des populations. J'ai été à Lille, par exemple, à Loufira, où j'ai rencontré des populations qui ont consommé de l'eau des rivières, parce que ce sont des zones minières, qui ont eu des problèmes avec leur peau par la suite. Et voilà, il y avait des plaintes à gauche à droite. Mais on se rend compte directement lorsque ce sont ces effets-là immédiats qui surviennent. Les effets sur les populations, parce que ce sont des êtres vivants, des humains. Mais lorsqu'il y a rejet de toute cette pollution-là sous diverses formes, vous n'avez cité que les déchets qui proviennent de mines, les drainages miniers acides, les lixiviats qui proviennent de mines et tout le reste. Mais je voudrais ajouter, avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il y a aussi d'autres types de déchets en dehors de ces espaces miniers. Il y a également les déchets de type biologique. Par exemple, lorsqu'on prend toutes les fosses septiques, on va les bouts de fosses septiques, on va les déverser dans les rivières. Eh bien, c'est aussi une pollution. Une pollution d'origine organique, et lorsque on envoie les pesticides dans les rivières, c'est aussi une pollution. On envoie tout ce que nous avons comme déchets d'équipement électronique, informatique et électrique dans les rivières. Ça apporte aussi notre forme de pollution. On a autant des aspects liés à cette pollution des rivières, même ce qu'on a comme déchets au niveau des constructions des maisons, on va les jeter là-bas. Il y a les déchets des hôpitaux, il y a les eaux de vaisselle, bref, il y a toute une série de pollutions pas seulement dans les zones minières, mais dans les zones urbaines aussi, on constate cette pollution. Il y a les matières fécales fraîches qui vont directement à travers plusieurs phénomènes sociaux que nous constatons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette impunité? Je rappelle d'abord que en 2015, le pays, on a voté une loi, la loi numéro 15/026 du 31 décembre relative à l'eau, qui précisait ce qu'il fallait faire dans le cadre, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire dans le cadre de la protection de tous ces cours d'eau que nous avons en dehors de la des rivières. Le fleuve, c'est un très grand cours d'eau, une très grande rivière à un certain niveau. Et donc, on a cette loi, mais je pense que jusqu'à ce jour, cette loi n'est pas d'application. Je voudrais ajouter aussi qu'en 2011, il y avait aussi une autre loi qui avait été votée, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, mais qui a été modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 23/007. Tous ces instruments juridiques, eh bien, prévoient qu'il faut faire. S'il n'y a pas application, ça devient une autre source de problème. Ça devient un sérieux cas sur lequel on doit se pencher. Oui. Je pense que l'application de loi dans ce pays serait une première chose, et que l'application vraiment soit stricte. Mais l'application de loi voudrait dire aussi qu'il faudrait que ceux qui sont soumises à les populations soumises ou les tous ceux qui sont soumis à cette loi doivent la connaître. Est-ce que ces lois ont été vulgarisées? Je ne pense pas. Les lois n'ont pas été vulgarisées, et quand bien même elles existent, on fait fi de tout ça qui explique toutes ces pollutions en milieu, dans les zones minières comme dans les zones urbaines. Eh bien, je ne sais pas si ces lois sont connues. Lorsque je suis passée dans les zones minières pour faire mes études sur la qualité de l'eau, j'ai eu à échanger, par exemple, avec les autorités locales, et je posais la question de savoir s'ils connaissaient ce qu'on appelle le plan national stratégique de développement. Et je vais constater que c'est la même chose. Les politiques au niveau national, les documents qui nous régissent, les documents de stratégie, les documents politiques ne sont pas connus à certains niveaux, a fortiori les lois. Même notre propre constitution, combien savent que nous avons le droit de défendre notre environnement à travers l'article 53? Combien? Bref, il y a autant de choses. Moi, je crois qu'il y a un travail à faire qui va être une sorte d'exercice synergique, holistique, qui va nous aider à pouvoir régler ce qui doit être réglé dans un premier temps. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui.
Eh bien, d'abord, vulgariser cette loi, la faire appliquer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mesures d'application. Je me souviens aussi qu'on a un jour, on s'est assis pour réfléchir sur les mesures d'application. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il en est après cet atelier-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux continuer.
Voilà, vous ne savez pas. Nous parlons aujourd'hui de la pollution des rivières. Comment mettre fin à l'impunité? Notre invité nous dit qu'il n'y a pas seulement la pollution du côté de l'exploitation minière, même dans les zones urbaines, il y a les déchets organiques, les matières fécales et autres déchets qui sont déversés dans nos cours d'eau. On va accueillir le premier auditeur dans cette émission. Il s'agit de Kachai depuis Kanyoka, dans la province du Kasaï central. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour. Bonjour à madame l'invitée de la radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question, monsieur Kachai?
Merci beaucoup, monsieur Jody, de la situation que vous avez abordée aujourd'hui. Madame parle de la non-vulgarisation des lois en rapport avec la protection ou contre la pollution des rivières. Alors, monsieur Jody, j'ai causé avec quelqu'un ici de la société civile qui me disait, par rapport à la vulgarisation des lois, il me disait que se donner à la vulgarisation des lois parce que les lois sont publiées dans les journaux officiels. Quand les lois sont déjà publiées dans les journaux officiels, c'est supposé que les lois sont connues de tous. Je lui ai dit, mais une population comme ici à Kanyuka, nous ne connaissons pas ce que c'est le service du journal officiel. Comment nous allons savoir que telle ou telle autre loi était déjà publiée, nous pouvons l'exploiter pour connaître les avantages, les droits et devoirs contenus dans cette loi-là. C'est ça au moins eu un problème quand madame a évoqué la situation de la vulgarisation des lois. Certaines personnes disent que les lois sont déjà publiées dans les journaux officiels. Déjà publiées, alors on ne peut pas encore se lancer au programme de la vulgarisation parce que c'est un gaspillage de l'argent. Maintenant, monsieur Jody, pour revenir un tout petit peu à la situation que madame a évoquée encore, je voulais revenir sur la situation de la pollution de la rivière Kasaï par la République d'Angola, laquelle pollution qui avait engendré des conséquences néfastes aux populations du Kasaï, de Tchikapa, côté Kamako, qui avaient bu une eau polluée, une eau empoisonnée, et cela avait créé des maladies. Nous en sommes où avec cette situation-là? Le gouvernement congolais avait relativisé, ou soit parce que nous n'avons senti ni une interpellation de ministres qui interviennent différemment dans leur secteur ou dans leur département ministériel. Il n'y a pas eu un contrôle amorcé par l'Assemblée nationale pour connaître qu'est-ce qui avait été à la base de la situation, qu'est-ce que la République d'Angola. Ici, monsieur Jody, dans le territoire de Luisa, certains pêcheurs avaient lancé, je dirais, des produits chimiques sur l'eau pour attraper des poissons, pour pêcher. Mais en polluant l'eau, monsieur Jody, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un crocodile qui est sorti, il a d'abord dévoré les pêcheurs sur la rivière Kasaï, la rivière Lulua. Là, nous sommes dans le territoire de Luisa. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui.
Le crocodile a dévoré un pêcheur, cela est lié à la pollution. C'est à cause de la pollution.
Deux. Il avait lancé les produits chimiques pour attraper les poissons.
OK.
En lançant les produits, le crocodile est sorti. Quand le crocodile est sorti, il l'a dévoré. À cause de ça.
Oui.
Alors, je voulais porter cela à la connaissance de madame pour qu'elle puisse nous dire, en dehors de la vulgarisation des lois, quels sont les autres mécanismes pouvant être mis en place pour sensibiliser les communautés riveraines à comprendre l'importance de vivre avec une eau sans l'empoisonner, même quand ils vont pêcher. Parce que beaucoup de ceux qui sont à côté des rivières, ils vivent de la pêche. Alors, la pêche là n'est pas facile, il faut prendre certains produits pour attirer directement les poissons. Alors, quels sont les autres mécanismes que l'on peut mettre en place pour que leur travail ne soit pas aussi mis sous pause, mais pour que l'eau ne soit pas aussi dérangée par eux-mêmes, parce qu'ils sont les premières victimes. Merci.
Bien, merci Kachaï depuis Kanyuka. Nous avons en ligne Maître Gaston de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody.
Nous parlons de la pollution des rivières. Comment mettre fin à l'impunité? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Bon, disons d'abord que c'est vraiment une réalité. Prenons l'exemple de Kinshasa. Vous savez que Kinshasa est traversé par plusieurs cours d'eau et vous savez l'état où se trouve des rivières là. Vous n'ignorez pas que chez nous, selon notre culture, je dis pas moi, mais la majorité des Congolais, la chose qui appartient à l'État appartient à tout le monde et par conséquent n'appartient à personne. Donc, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, entre autres sur nos différentes rivières ici. Voir comment c'est se transformer en toilette, en poubelle. Il y a des coins où il n'y a pas de toilette. Ce sont les mêmes cours d'eau qui servent en bas des autres, mais en haut, ce sont des toilettes pour les autres. Donc, les poubelles sont jetées, vous savez, actuellement avec ces ramasseurs des ordures là qui viennent, je sais pas, de l'Équateur, qui envahissent nos villes, mais ils récoltent des déchets de différents ménages et la destination, ce sont des cours d'eau. Et tout cela s'est fait aux vies et au sud de la population, qui vivent au campus. Et il arrive des fois que dans des postes là, on jette des trucs là. Il y a des policiers qui standent, qui restent là-bas pour percevoir des sommes auprès de ces gens-là. Moi, je pense que ce sont des domaines bien protégés, il y a des textes qui existent, il y a des sanctions qui sont prévues, il y a même des organes, de répression, qui sont là, qui devraient normalement faire leur travail.
Oui.
C'est seulement à ces conditions-là qu'on pouvait réfléchir à la situation, mais aussi la mentalité des Congolais, mais cette mentalité là suit aussi la condition de vie, la condition de vie de la majorité des Congolais vivent ici. Prenons seulement l'exemple de Kinshasa. Vous trouverez des endroits où ce n'est même pas permis de lotir, de vendre des parcelles, mais les gens ont envahi là-bas. Ils sont là-bas, tous là-bas. Et ils vivent dans des conditions que vous connaissez. Alors, vouloir aujourd'hui réprimer ces gens-là ou protéger les riches, vous verrez peut-être mettre en remède, venir en avis, s'il faut faire partie des gens-là.
Bien.
Village d'origine, je ne sais pas.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. La pollution des rivières, c'est pas seulement là où il y a l'exploitation minière, bon, même dans nos zones urbaines, il y a des problèmes, rivières sont polluées. Oui, quelle est la question que vous adressez au professeur Céline?
Bon, j'allais dire ceci. Selon la loi sur les forêts en RDC, on interdit à exploiter à quelques périmètres de nos rivières d'exploitation forestière. Je ne sais pas si cette loi-là est d'application en ce qui concerne l'exploitation des forêts dans notre pays. Si vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus, parce que c'est une loi nouvelle apparemment, qui n'est même pas connue, et pour faire plusieurs solutions contraignantes.
Pour l'instant, on ne parle pas des forêts, nous parlons des rivières, des cours d'eau qui sont pollués.
L'exploitation des forêts. Non. Dans des périmètres des rivières.
Ah, dans des périmètres des rivières, d'accord. Merci Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, ainsi que Valérie. Ismaël, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la pollution des cours d'eau?
Bonjour Jody, bonjour madame l'invité. Entrée de jeu, tel que j'ai commencé sur la page, on s'est grave ici à Lubumbashi. Je vous donne un exemple de chez MAF. Puis prend son canal du quartier Kabetcha, qui descend, qui passe Bel Air 1, Bel Air 2, Bongonga, Taba, vers la rivière Kafou. Mais la plupart des légèretés de celles dont je vous dis, l'acide que cette société exploite est versé vers ce canal. Sur Kabetcha, du côté du bureau de la police de la proximité, j'avais fait un forage en 2018. Je vous dis, ce forage me donnait de l'eau, mais après 15 minutes, cette eau pouvait se transformer en jaune, couleur jaune. Mais tout cela, c'est au vu de toutes les autorités. Même les étudiants qui cherchent à faire les études sur ça...
Allô?
On ne peut jamais le permettre de faire des investigations et des titres et de présenter à toute la population qu'on est en train de tuer avec cette spoliation que c'est ça ce qui se passe réellement. Au titre d'exemple, dans certains pays, je vous donne l'exemple de la Zambie. Vous sortez sur l'autre frontière, vous allez sur l'autre bloc Tanoff, c'est-à-dire au niveau de rond-point, l'avenue qui vient d'une société minière et celle qui part vers Chilabon. Je vous dis, le gouvernement a organisé et a dit à toutes ces entreprises de canaliser leurs eaux-là. Et ces eaux-là ne peuvent jamais se mêler avec les eaux où les gens consomment. Mais la question que je pose à la dame, par rapport à ces...
Allô?
...pays. Mais pourquoi dans d'autres pays on respecte la vie de la population, de nos sources d'eau, et qu'en RDC cela ne se fait pas? Ou soit c'est par la manque de la conscience, ou c'est par exagération de la corruption, ou par c'est en réussite à la tête de la population et que cette population est en train d'être tuée. Je vous donne même l'itinéraire de l'eau dont je vous ai dit. Vous êtes tiré la ville de Tshilabombo, de part et d'autre, il y a des sociétés. Cette société prend ses eaux usées-là jusqu'à 15 kilomètres. On a créé des vases pourvu que ces eaux-là ne puissent pas atteindre les cours d'eau de la population, où la population consomme.
D'accord.
Mais pourquoi le décès, cela ne se fait pas? Voilà. L'exemple que je vous donne de ce map vers des eaux pluies, c'est au milieu de la ville.
Au milieu de la ville de Lubumbashi.
Mais qu'est-ce que l'État attend pour stationner et pour sauvegarder la vie de la population?
Merci.
Je vous dis, c'est grave.
Oui, merci beaucoup Ismaël. Valérie, vous êtes aussi à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la pollution des eaux? Allô Valérie?
Bonjour à la radio. Oui, allô, bonjour à Jody et puis bonjour à l'invité qui est avec vous.
Bonjour, quelle est votre question?
Je vais seulement d'abord m'attarder sur les problèmes des centres urbains parce que il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans nos communes. Ici, à Lubumbashi, dans presque toutes les communes de la ville de Lubumbashi, lorsque la pluie tombe, c'est un moment où tous les ménagers, toutes les maisons là versent les ordures dans l'eau pluvieuse, surtout ceux qui passent dans les terrasses et dans les caniveaux. Et même certains vont loin pour déboucher les fosses septiques, vider tous les déchets des fosses septiques dans des terrassiers. Et c'est là, lorsque l'eau déborde, ça entre même dans les parcelles d'autres personnes, même dans leurs propres parcelles. Et c'est ce qui occasionne la recrudescence ou bien l'abondance des cas de choléra ici dans la ville de Lubumbashi. Mais cela se passe au vieux aussi de toutes les autorités municipales. Même les chefs de quartier ne font rien, même les chefs de riz ne font rien. Et en tout cas, je me demande c'est quoi. Bon, c'est pour cela que je m'en vais poser une question à la dame. La sensibilisation, elle est où? Parce que ce sont seulement les mêmes personnes qui sont en train de s'entretuer elles-mêmes. La sensibilisation, elle est où? Nous ne voyons pas une sensibilisation là pour dire que non, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Tout, en tout cas, ça se passe au vieux. C'est comme si même ceux qui font ça, ils voient ça, c'est normal. Mais lorsque les cas de choléra entrent, ça commence à tuer les gens. Mais même pas de sensibilisation là-dessus. Et les autorités croisent les bras. Ils attendent qu'on les amène des plaintes dans leur bureau et lorsqu'il y a des plaintes avec des mandats d'argent qui vont, d'argent de plainte et puis ils vont faire des mandats d'arrêt et puis à ce moment-là, les choses vont bouger et puis ils vont
merci. Procéder. Merci beaucoup. D'accord. Merci Valérie. Pour toutes ces préoccupations. D'accord, sensibilisation, et puis voilà, impunité, etc. Professeur Céline Sikoulissimoi, à vous la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Merci à tous les auditeurs pour leurs questions et bien entendu leurs contributions. Mais je reviens sur ce que j'avais dit en termes d'application de loi, mais aussi vulgarisation. De ces lois. Vous savez que notre population en majorité, une bonne partie est à, ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Et donc, je peux dire, le taux d'analphabétisme est assez considérable. Et donc, un des éléments serait aussi de tenir compte de cet aspect de choses. Notre population est pauvre, comme vous le savez, c'est à la base de la pyramide de Maslow. On se focalise d'abord sur la physiologie, comment manger, comment boire, comment se maintenir en vie. Et puis le reste, finalement, ça devient... le reste, on verra après. Et si on arrivait à vulgariser toutes ces lois, même notre propre constitution, je mets quelqu'un à défi. Si vous voulez nous dire combien on a mis en place en termes de vulgarisation de notre propre constitution d'abord, pas seulement en français, notre population parle en majorité les langues nationales. Donc, il faut non seulement vulgariser les lois, mais aussi les vulgariser dans les langues nationales. Il faut prendre ce temps-là parce que La question de l'éducation des populations revient à ce moment-là sur la table, comme l'un de notre vient de le dire, M. Valéry, qui a parlé de la sensibilisation des populations. Oui, il faut commencer par éduquer cette population. Lorsqu'on lui apporte une instruction, je pense que ça peut permettre de gérer un certain nombre de choses, parce que l'ignorance est à la base de beaucoup de choses. Quand on ne connaît pas, on fait beaucoup de choses par ignorance. Donc, il faut aussi éduquer ces populations. Moi, je crois que c'est le deuxième. Donc, j'avais commencé par l'application de loi. Deuxième lieu, c'est l'éducation de population, bien sûr, sensibiliser sur les bonnes pratiques qui vont faire que les gens cessent d'envoyer dans l'environnement leurs déchets qui sont à la maison. C'est vrai, on se dit il n'y a pas de structure ou d'infrastructure qui pouvait traiter ces déchets. Il y a un déficit sur ce plan-là en termes d'assainissement dans notre pays. Malgré les lois, eh bien, le reste ne suit pas. Comme je le disais, la question de l'application de la gestion de rivières ou la pollution des rivières, c'est une question holistique. On ne peut pas la voir que sous un angle. Il faut une approche intégrée où plusieurs domaines viennent. Si les lois sont appliquées, ça c'est la justice, mais pour que cette loi s'applique, il faut que les gens se disent « oui, si, je les mets par manque d'endroits ». Il faut qu'il y ait des structures qui gèrent ces déchets-là pour que ça n'aille pas. Peu importe le type de déchets, que ce soit les déchets miniers, les déchets ménagers, les déchets industriels, les déchets urbains, domestiques, tout ça là, il faut des structures. Donc c'est aussi un autre aspect lié à l'application de loi. Mais à part les structures, il y a Maître Gaston qui a parlé des rivières en termes de la coupe de bois, eh bien, c'est dans tout ça. Je crois que ce qu'on appelle les périmètres de protection, les cours d'eau, à côté d'une rivière, il y a une bande qui doit être respectée, qui ne peut pas être occupée. Et si dans la forêt, on parle de cette protection-là, c'est la même chose au niveau des villes. Pourquoi nous décrions ces phénomènes que nous appelons Munduki? Toutes les fosses septiques, toutes les toilettes des maisons sont directement des tuyaux PVC dans les rivières, particulièrement ici à Kinshasa. Je crois qu'il y en a aussi en province. Eh bien, c'est parce qu'on ne respecte pas ces périmètres de protection. Mais ce périmètre de protection, pour que ça soit appliqué, il n'y a pas que la justice. Ceux qui octroient les parcelles des maisons, ceux qui vendent ou qui fument des parcelles ou qui octroient ou qui vendent, qui donnent des autorisations à construire. Pourquoi ils acceptent pourquoi ils laissent faire? Moi, je crois qu'il y a un problème. Hein? On ne sait pas trop de quoi il s'agit.
Professeur Céline.
Il faut que les gens se mettent autour d'une table.
Oui, vous avez dit qu'il faut appliquer les lois, sensibiliser les populations. Prenons par exemple les cas de la pollution des rivières Kassai et Tchikapa. Notre Kachai nous en a parlé. L'eau, cette rivière a été polluée. Elle a causé beaucoup de dégâts. Voilà, il y a eu des maladies, etc. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions? Est-ce que toutes ces populations ont été, il y a eu réparation par la suite?
Bon, dire qu'il y a eu réparation, je n'ai pas eu écho, mais je vais plutôt revenir à ce qu'il allait dire, parce que c'était dans la suite de mes idées. Il a demandé quel mécanisme y a-t-il pour la protection dans ce genre de cas. Bien, j'ai dit aussi que sur le plan technique, je vais d'abord parler des techniques avant d'aller au niveau des populations. Au niveau technique, même les juristes qui sont là, Maître Gaston et les autres, savent que si vous n'avez pas de preuves qui prouvent quelque chose, vous n'amenez pas les preuves des faits, eh bien, vous risquez de ne pas être pris au sérieux. Il faut prouver que vous avez, dans ce cas-là, pollué. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant la pollution, la RDC avait un tableau de bord, un dashboard de la situation avant. Quelles sont les baselines? Et cette situation n'était pas disponible. Ça, c'est mon analyse. Dans la mesure où, en termes de gestion intégrée des ressources en eau, il y a un suivi régulier qui se fait. Chez nous, ça ne se fait pas. Il n'y a aucune rivière qui est suivie. n'y a aucune rivière qui est suivie. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de prouver qu'avant l'intrusion de ces déchets provenant de l'Angola, notre rivière était dans tel état. Si on était en mesure de prouver ça, je crois que les choses auraient marché. Et c'est sur base de ça, pour moi, je crois que notre pays a péché à ce niveau-là. Aucun cours, nous n'avons aucun observatoire des cours d'eau. Et je le dis, je le répète à qui veut l'entendre, tant que nous serons dans cette situation, on subira les affres que nous avons. Nous nous plaignons, c'est vrai, mais nous ne mettons pas les mécanismes pour nous protéger d'abord nous-mêmes pour nous permettre de faire face à quelque chose qui peut arriver dans les cas d'espèce. Notre rivière a été polluée, c'est vrai, mais il faut aussi montrer à la face du monde qu'avant, voici la situation, et lorsque c'est arrivé, voilà la situation, voici les conséquences. Ça, c'est la logique la plus simple. Et donc, pour moi, je crois que ces populations-là ont suivi les affres. Je ne sais pas à ce jour s'il y a eu réparation, mais vous savez que la rivière, toute rivière a une capacité naturelle de s'auto-épurer. La rivière peut-être a pris le temps de se refaire petit à petit, mais les dégâts sont là parce que si on va dans les sédiments, par exemple, on va retrouver ces polluants. On va retrouver ces polluants. Bon, c'est pourquoi je parle de l'approche holistique. Si les chercheurs étaient impliqués avant la pollution, quand il y a eu pollution, on a impliqué les chercheurs, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et maintenant, là, est-ce qu'on continue à surveiller cette rivière pour qu'en cas de problème, parce que c'est seulement la recherche qui peut vous permettre d'identifier, par exemple, là, il y a un problème. Lorsque nous avons un système sous forme d'observatoire, sous forme d'un tableau de bord qui nous montre, les situations. Quand il y a une anomalie, on sait le voir aussi à partir de ce que l'on apporte. Moi, je reste convaincue que la prise en compte de tous les autres secteurs dans ce cas-là est très importante, dans la mesure où même l'urbanisation doit intervenir dans ce cas-là pour protéger les rivières. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut donner des terres à n'importe qui, à n'importe où. Les gens peuvent se passer des autorisations de construire pour aller ériger n'importe quoi à côté d'un cours d'eau. Et quand la rivière veut fonctionner normalement, je prends le cas du CRI, les gens se sont plaints, les inondations à Kinshasa et tout, mais on a oublié qu'on est allé construire sur les parties réservées à la rivière. C'est parce que celui qui a fait ça n'a pas compris, ne connaît pas le rôle de tout ça. À mon avis, notre pays a besoin d'un plan d'action qu'on appelle le plan de gestion intégrée des ressources en eau. Ça permettra à chacun, ça permettra aussi la mise en place des systèmes de contrôle, des systèmes de surveillance. Et ça va encore dans le même sens où je dis, peu importe l'endroit, on peut se retrouver à Kasumbalé, ça, on peut se retrouver au Kasaï, ou je sais pas, à n'importe quel endroit. Si nous arrivons à mettre ce système de contrôle rigoureux, je crois qu'on arrivera à sauver le meuble. Actuellement, les rivières sont déjà polluées. Il faut un autre système, c'est celui de reparer, de réhabiliter les écosystèmes, parce que nous courons vers un danger. Les effets boomerang, nous les vivons aujourd'hui, mais ce n'est pas encore terminé. Parce que lorsqu'on pollue quelque chose, on pense qu'on s'est débarrassé de la pollution. Eh bien non, il y a quelqu'un qui a parlé de choléra et tout. Ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Et nous faisons ça, nous faisons du mal, non pas aux autres, mais à nous-mêmes, aux populations à venir.
Mais tant qu'il n'y aura pas des sanctions, ça va continuer.
Exact. Oui, l'impunité, vous savez que dans toutes choses, même dans nos propres familles, quand vous laissez un enfant évoluer sans punition, il est mené à sa propre perte. Il est mené à sa propre perte. Et il y a un adage qui dit, si vous n'écoutez pas lorsqu'on vous parle, eh bien, la vie, les expériences, vous les apprenez avec cruauté. C'est ce que nous vivons. À force de dire aux gens, voilà, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, les gens ne vous écoutent pas. Mais les effets boomerang sont là. On se plaint qu'il n'y a pas, de route, qu'il n'y a pas de ceci. Mais on oublie quelle est notre part de responsabilité, nous, population. on jette les déchets dans les cours d'eau, on remplit les caniveaux. Quand vous passez, par exemple, ici à Kinshasa, vous verrez les gens en train de, les cantonniers en train de balayer. Mais où est-ce qu'ils envoient les déchets, le sable et tout le reste? C'est dans les caniveaux pour faire le travail. Mais ils rendent encore un autre travail difficile parce que l'eau, si elle n'a pas un endroit pour passer, eh bien, elle se fraye un chemin, elle se retrouve dans nos maisons. Et les inondations, bonjour, les inondations. À côté des rivières, on a une bonne quantité, enfin, on a déjà des maisons, donc les fonctions physiques de la rivière qui permet à la rivière elle-même de gérer les crues, eh bien, la rivière ne sait plus remplir ses propres fonctions. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'aspects autour de ça.
Oui.
En une seule émission, on ne pourra pas tout
prendre.
Mais je pense que les uns et les autres, on a effectivement, les uns et les autres, chacun a apporté sa part. Et nous comprenons que la question de la protection des cours d'eau ne peut pas être gérée de manière isolée. Il faut prendre en compte les autres domaines. Parce que, par exemple, lorsque la pollution est là, on voit des éruptions cutanées sur la peau des gens. Mais c'est la santé. Donc, le ministère de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale intervient à ce moment-là. Vous savez que l'impunité, tant qu'elle est là, l'impunité, tant qu'elle continue à vivre, nous rendons... C'est comme si vous êtes assis sur une branche et vous la sciez. Nous sommes en train de nous suicider collectivement.
Bien.
Si nous ne voulons pas punir, si nous ne voulons pas accepter d'être contrôlés, accepter d'être responsables, de répondre devant nos actes, parce que quand j'agis mal, l'État intervient, vous verrez qu'il y aura des gens qui vont intervenir pour dire non, laissez-le. C'est ce que nous vivons. Le bon sens n'existe plus.
Professeur Céline, des textes n'existent plus. On va accueillir d'autres auditeurs, Maître Christian Politassi de Kinshasa et Olivier Ndumba de Kisangani.
Au Capi Service, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
Nous parlons de la pollution des rivières, des cours d'eau en République démocratique du Congo. Comment mettre fin à l'impunité? Maître Christian Politassi de Kinshasa, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, merci Jody et bonjour à l'invité. Nous pensons que le problème de pollution de cours d'eau en RDC, c'est un véritable problème de santé publique. Et c'est un problème qui demande inévitablement le renforcement de l'autorité de l'État, notamment dans la territorialité, c'est-à-dire les entités, les ETD, mais aussi les entités territoriales déconcentrées. Là, je vois automatiquement le chef de riz, le chef du quartier, le bourgmestre. Et voilà un peu cette la renaissance de toutes ces autorités donnerait automatiquement un résultat escompté, parce que ces derniers auront plus des possibilités d'avoir des informations sur chaque secteur de leur responsabilité, bien évidemment avec leur population. Et ensemble, si la sensibilisation est faite, vous verrez que ça sera une sensibilisation déjà de manière, une sensibilisation de porte à porte, et les résultats seront rapidement au rendez-vous, dans une sensibilisation de proximité. Et un autre élément sur concernant toujours la lutte contre les pollutions, nous pensons qu'il faudrait l'application inévitable ou l'application sans état d'âme des sanctions exemplaires, parce que l'on peut bien sensibiliser, mais c'est lui qui n'écoute pas ou encore les contrevenants pour l'amener à un changement, il faudrait automatiquement les sanctionner. Donc ici, nous faisons également appel à notre justice, notamment le magistrat du parquet, qui, on dirait, c'est un devoir non seulement celui d'attendre des plaintes, mais aussi de poser des actes, ce que nous appelons les procédures inquisitoriales. Et donc, sur base de cette procédure inquisitoriale, le magistrat du parquet peut des communs accords avec le bourgmestre ou les autorités des ETD, mener les enquêtes et puis sanctionner les contrevenants.
Oui, maître Christian, mais pourquoi, maître Christian, Maître Christian, mais pourquoi il n'y a pas, il n'y a pas tellement des sanctions? Prenons le cas, par exemple, dans la province du Lualaba et du Haut Katanga où, les entreprises minières déversent des rejets, des déchets toxiques au niveau des rivières. Les populations en subissent les conséquences. Il y a des cas de maladies, des décès, les poissons meurent, etc. Mais il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de réparations.
Justement, il faudrait, cela revient au parquet, aux autorités publiques, de mener des investigations. J'évoquais tout à l'heure la procédure inquisitoriale qui donne justement au ministère public ou au magistrat du parquet de pouvoir rechercher des infractions, mais aussi de les réprimer. Alors, dès lors que ce pouvoir n'est pas exploité, le magistrat attend la plainte dans son bureau, automatiquement, nous devons continuer à vivre toujours cette situation. Or, ces entreprises, en tout cas, sont pour beaucoup dans la pollution de nos cours d'eau. Il faudrait vraiment une politique visant à rechercher des infractions et puis à sanctionner les auteurs. Mais il y a également un autre élément. Ces derniers ont une puissance énorme. Et du coup, même si vous les poursuivez, en tout cas, dès que la justice sera toujours caractérisée par ce que l'ancien ministre appelait une justice ou le magistrat des 3V, qui était à la recherche de villas, voitures et vestes, automatiquement, ils vont se laisser corrompre et il n'y aura pas de sanctions exemplaires. Bon, c'est là, nous faisons également appel à la moralité même de nos magistrats, mais aussi à la bonne conscience. Il y a un auteur qui disait, science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Il faudrait que la conscience nationale soit vraiment au rendez-vous dans le chef des magistrats pour que les sanctions soient réellement de mise. Sinon, il y aura des enquêtes, mais qui n'aboutiront pratiquement à rien. Et donc, au-delà des sanctions exemplaires, il y a également cet aspect des choses sur les tirages et les faucardages réguliers des cours d'eau. Il faudrait vraiment qu'il y ait des tirages. Il faudrait qu'il y ait des entretiens qui permettent à nos cours d'eau de respirer et qui permettent même aux poissons, mais aussi à d'autres êtres aquatiques de respirer, de vivre. Parce que si ces derniers n'ont pas une vie, en tout cas, il y aura des répercussions même sur la santé de personnes humaines. Et en dernier lieu, il y a en fait la mise en exergue du principe pollueur-payeur. Il faudrait vraiment l'insérer, surtout dans la politique de lutter contre la pollution des cours d'eau, ces principes de pollueur-payeur, si on l'insère, surtout contre les entreprises minières, et cela va automatiquement jouer un rôle d'abord dissuasif, mais aussi cela va remplir les caisses de l'État, et automatiquement nous aurons la possibilité, par rapport à ce que l'invité venait de dire, qu'il faudrait créer un observatoire sur les cours d'eau. Cet observatoire sera bien évidemment alimenté par des fonds qui seront collectés via l'application de ces principes pollueurs-payeurs. Et de cette manière, vous verrez que nous aurons des cours d'eau plus ou moins viables et la santé publique des populations, que ce soit en milieu rural ou encore en milieu urbain, sera en tout cas épargnée des maladies hydriques et toute autre forme de situations qui pourront arriver.
Bien, merci Maître Politassi. On va donner la parole à présent à Olivier Ndumba depuis Kisangani. Olivier, bonjour et quelle est votre question? Allô Olivier, merci de réduire le volume de votre radio. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour monsieur, bonjour également à notre invité. Pour mettre fin à cette impunité sur la pollution des cours d'eau dans notre pays, de la RDC, de mon point de vue, je suggère sur les différents points dont une forte sensibilisation de pouvoir éclairer cette opinion riveraine sur la notion basée de la pollution d'eau. Et puis, je voudrais aussi ajouter un autre point, que les gouvernements centrales puissent mettre également s'impliquer sur tout en donnant des actions sévères contre les individus qui iront à la contraire de cette pollution. Voilà un peu ma petite contribution que je voudrais, malgré on est talonné par les temps.
Bien, merci beaucoup, Olivier. Madame Céline Sikoulissimoi, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je remercie à tous les auditeurs. Merci à Christian qui a parlé du principe du pollueur-payeur Il est vrai que ce principe peut être appliqué, mais je crois que si on lit ce que nous avons en termes d'arsenal juridique, ces aspects-là sont pris en compte, mais pas appliqués du tout et moins respectés, si je peux le dire. Est-ce que les gens le savent? Bien sûr, ils le savent, mais ils font fi parce que ils se trouvent des moyens pour ne pas appliquer cette loi. Mais je rappelle à nos auditeurs qu'au-delà du principe du pollueur, il y a plusieurs autres principes, notamment le principe de prévention en matière de droit de l'eau, qui a primauté sur le principe du pollueur-payeur. On va pas attendre que les gens polluent pour pouvoir les punir ou, disons, les inciter à, ou les inviter à payer. On se bat, chaque pays a la possibilité ou est censé appliquer certaines directives relatives à l'eau, relatives au droit international ou le principe de prévention du pollueur-payeur. Et donc, à notre niveau NOIRDC, nous devons tout faire pour que ce plan de mise en œuvre de ressources en eau, le plan GIR, qui prend en compte tous ces différents aspects, notamment les aspects connexes, l'approche holistique et intégrée, mais permet aussi à chaque pays de pouvoir suivre de près ces évolutions, parce que vous savez, l'eau touche à tous les domaines de la vie. Il est difficile de vivre, quasi impossible aux êtres vivants de vivre. Il y en a qui vivent sans air, mais ils ne peuvent pas vivre sans eau. Donc l'eau est parmi les éléments indispensables de notre vie. On doit y apporter des éléments. Il a parlé de renforcement de l'autorité de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est ainsi qu'avec les ETD, on arrive à faire appliquer certaines choses, mais cela ne va pas. C'est pas aisé non plus, donc il y a encore un exercice à faire de ce côté-là sur l'aspect gestion des ressources en eau. La gestion, elle est internationale, elle est nationale, elle est régionale, nationale. La gestion est nivellée, même au niveau local. Mais si nous n'avons pas des petites structures qui gèrent l'eau au niveau provincial, il est difficile que le suivi de cette impunité soit mise en œuvre. Donc, à chaque endroit, il faut très bien comprendre c'est quoi l'eau, ces cours d'eau. Nous parlons des rivières, mais nous parlons aussi d'autres. Quelqu'un a parlé de forage, je me souviens pas très bien de tout ça. Ça fait partie des ressources en eau que nous avons. Donc, pas que les rivières, puisque nous en parlons maintenant. Si nous arrivons à bien mettre en place tous les systèmes, je crois qu'on réglera cette question de l'impunité, parce que il faut absolument que les lois soient appliquées pour préserver nos rivières. L'impunité n'est pas une bonne chose. Ça ne permet pas de faire avancer. Parce que c'est la justice qui élève une mission. Sans justice, on n'ira nulle part. Je me limite pas.
Voilà. Et il y a les populations victimes qui attendent aussi les réparations.
Les populations qui sont victimes, qui attendent les réparations, c'est tout à fait légitime, c'est leur droit, mais c'est aussi ça. Quels sont les droits et comment on les applique? Est-ce que nous les connaissons nous-mêmes? Et comment nous arrivons à revendiquer ces droits et à tout à boire et à manger sur cette assiette? Donc nous pensons que il faut une approche holistique pour comprendre un certain nombre de choses.
Voilà, une approche holistique, faut comprendre. Merci beaucoup, Madame Céline Sekoulissimoi, professeure à la Faculté des sciences de l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour des échanger autour de la pollution des rivières et face à l'impunité. Comment arriver à mettre fin à l'impunité? Voilà. Et merci également à tous les internautes et à tous les auditeurs qui ont réagi par rapport à cette thématique. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, excellente journée, et à la prochaine.
Merci beaucoup.